Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, vous êtes dans la chronique Jeu du mois de Proxy Jeu. Benoît FX vous parle et je suis comme d'habitude accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Benoît FX.
Alors comme d'habitude, on va vous parler de deux jeux ce mois-ci. On reprend le format habituel après avoir fait deux petits numéros spéciaux sur Cannes. Et du coup là on reprend la présentation de jeux. Donc on va tous les deux vous parler de jeux dont on vous a déjà un petit peu parlé dans le débrief de Cannes. Pour ma part, je vais présenter Welcome et toi Cyrus ce sera...
Et moi, ce sera Décrypto, comme
comme tu l'avais annoncé.
Je l'avais déjà évoqué.
Donc, avant de passer au jeu, est-ce qu'il y a des commentaires sur les différents, en tout cas sur les jeux du mois précédent? Donc,
tout à fait. Donc, sur l'épisode Blood Rage Pioneers, on a un commentaire concernant Blood Rage. Donc, du coup, je te laisse faire.
Donc, effectivement, il y a un commentaire de Nem qui nous dit qu'il aime aussi beaucoup, beaucoup Blood Rage et qu'il le fait jouer souvent et qui conseille en fait pour les premières parties, enfin quand il fait découvrir à des joueurs débutants, pour éviter cette frustration de se faire un peu rouler dessus quand on ne sait pas quelles sont les bonnes cartes et quand on ne maîtrise pas trop les cartes à drafter au départ. En fait, il sépare comme il y a plusieurs types de cartes, il sépare les types de cartes en différents tas, les cartes bataille, les cartes quête, les cartes amélioration, et il en distribue simplement deux de chaque type à chaque joueur. Comme ça, tous les joueurs ont un peu de tous les styles de cartes et peuvent un peu comprendre comment ça marche. Et il fait du draft dès l'âge 2. Donc voilà. Mmh. Et il nous remercie également pour les chroniques et il dit que c'est toujours très agréable à écouter. Voilà. Il attend celle de Rising Sun que vous attendiez peut-être, mais qui ne sera pas tout de suite, puisque j'ai pas encore assez de parties. Enfin, j'ai fait qu'une partie pour le moment. Donc je trouve que c'est encore un petit peu tôt pour le chroniquer, mais il viendra, ne vous inquiétez pas.
Très bien, bon, on attend ça alors.
Donc ça c'était sur l'épisode Blood Rage Pioneers. On a c'est aussi ça. Des commentaires sur les épisodes de Cannes. Donc oui. Déjà un commentaire de Fred Laloutre sur l'épisode sur le salon. Voilà, il dit que c'est un très bon débrief. Il fait un commentaire intéressant. Il dit qu'il a trouvé le salon un peu plus indépendant, enfin indé dans le sens plus de petites boîtes de jeux de société cette année. Avec les gros éditeurs qui ont fait l'impasse sur des sorties à Cannes. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir le Days of Wonders annuel qui sortait à Cannes. Il n'y en avait pas cette année. Les Space Cowboys n'ont pas fait de grosses sorties. Repoprod non plus. Voilà, il n'y a que Bombix et Libellude qui ont fait leurs grosses sorties annuelles. Yellow qui a lancé notamment sa gamme enfant et aussi Château Aventure. Voilà, pas de grosse, il nous dit pas de grosse localisation pour Gigamic non plus, donc bref, un salon assez pauvre pour les gros joueurs et qui laisse plus de visibilité aux petits éditeurs et aux petits jeux qui trouvent plus leur place. Il cite comme exemple Welcome de chez Blue Cocker dont on va parler aujourd'hui, Kingdom Run chez Ankama et Topiary chez Aurora. Voilà, mais il a trouvé ça surprenant et intéressant comme salon.
Et donc on a eu un second commentaire sur la partie salon, un commentaire de la part d'Alexandre Emery, donc l'auteur de Boom, qui faisait un petit retour sur notre remarque sur l'aspect du matériel. En fait, on se demandait si le matériel tenait dans le temps, et il nous disait en fait simplement que tout ce qu'il pouvait nous répondre, en tout cas, c'est que les jeux avaient survécu à 4 jours de festival, donc bon, il pensait que c'était...
une preuve suffisante, ouais.
Donc voilà. Et ensuite, on a eu des commentaires sur la partie jeu. Premier commentaire de la part de Fnup, qui remettait une petite couche hein, sur le côté draft. Alors, je vous laisse aller lire son commentaire, parce que c'est un petit peu long. Il faisait aussi la remarque que Anthony Wolf n'en était pas à son premier jeu sur 1. Donc, il citait Western Town et la seconde édition de King of Tokyo. Effectivement, en plus, j'ai Western Town chez moi, donc effectivement, maintenant qu'il me le dit, c'est vrai que ça, il y a un petit quelque chose. Et sur la rejouabilité, voilà, bon, lui, il nous donne ses arguments hein, sur le fait que il y a quand même une certaine combinatoire d'objets, de cartes qui a priori suffisent à avoir une rejouabilité suffisante. Voilà, en gros, ce qu'il nous raconte. Mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux commentaires si ça vous intéresse. Et un dernier commentaire de la part de Cesare Menardi, qui est le responsable d'Atalia, qui distribue Magic Maze Kids, qui corrige en fait ce que j'ai dit dans le compte rendu, simplement en expliquant que à la fin, dans les derniers niveaux, il y a bien le mutisme qui apparaît, donc il devient interdit de parler, et que, enfin bref, voilà, qu'en gros la complexité est un peu plus importante que ce que je faisais pressentir, que ce que j'avais annoncé en tout cas dans l'épisode.
En tout cas, voilà. elle est très progressive, quoi. Ça
oui,
arrive très très
exactement.
Progressivement.
Mmh. Donc voilà pour les commentaires, je pense qu'on va pouvoir attaquer la chronique en tant que telle.
Ça marche. Tu veux commencer ?
Eh ben allez, je commence.
Allons-y.
Donc on va attaquer en commençant par Décrypto. Décrypto, c'est un jeu de Thomas Dagenais-L'Espérance, c'est un Québécois, et le jeu est édité par le Scorpion Masqué. Alors si vous avez écouté notre épisode précédent sur l'interview qu'on a réalisé, donc c'est une interview qui a été réalisée de Christian Lemay, qui est le patron du Scorpion Masqué. Donc on a parlé hein, des cryptos dans cet épisode. Mmh. Il nous a parlé un petit peu de la genèse de ce jeu, tout ça. Donc si vous voulez un peu plus de détails puis l'entendre par sa bouche, je vous invite à aller vers cet épisode, donc qui est l'épisode interview 95. Donc sinon le jeu en tant que tel, donc je vous ai dit Thomas Dagenais-L'Espérance, c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs, c'est un jeu illustré par Nils, Manuel Sanchez et Fabien Fulchiron. Et donc 3 à 8 joueurs, c'est annoncé pour des parties de 30 minutes, je reviendrai là-dessus, et c'est un jeu qui est disponible chez Philibert, donc à 17,90€. Le jeu est déjà un carton. Christian Lemay nous l'expliquait un peu dans son interview. Il a déjà fait un double premier tirage pour le jeu de 45 000 boîtes pour le monde. Hein. Donc c'est diffusé déjà dans 21 pays. Donc autant vous dire que effectivement pour un démarrage c'est quand même assez costaud. Je crois qu'il disait qu'il devait déjà préparer le deuxième tirage. Donc bref, autant dire que le succès est vraiment annoncé pour ce jeu. Donc si vous n'en avez pas encore entendu parler, et même si vous en avez entendu parler, mais que vous avez envie de savoir un peu ce que j'en pense, eh bien je vous invite à écouter la suite. Alors déjà pour expliquer le principe, les grandes lignes on va dire du jeu. Donc c'est un jeu qui va jouer sur l'asymétrie entre déduction et communication. C'est-à-dire que on va jouer en équipe, donc il y a deux équipes qui vont s'affronter. Et au sein de ces équipes, il va falloir en fait se passer des codes. Donc ce sont des codes qui sont chiffrés. Donc c'est des codes genre 3, 2, 4, voilà. Mais ces codes en fait s'appuient sur des mots. Je vais y revenir un peu après. La partie va jouer en plusieurs manches jusqu'à ce qu'une des équipes soit parvenue à intercepter deux fois le code de l'équipe adverse. Donc dans ce cas-là, elle gagnera la partie. Ou alors jusqu'à ce qu'une équipe échoue deux fois à
décrypter
son propre code. Ah, ça paraît un peu con comme ça, mais vous allez voir qu'effectivement,
ça arrive.
ça peut arriver. Donc concrètement, chaque équipe a devant elle un petit pupitre avec quatre mots qui sont numérotés de 1 à 4 et qui lui sont propres. Les équipes vont jouer avec ces mêmes mots toute la partie. Ça, c'est hyper important. Donc on va jouer, on va garder ces quatre mots tout le long de la partie. Le premier tour va commencer, chaque équipe va désigner un encrypteur, je mets des guillemets qui ne sont pas du tout radiophoniques. En gros, dans les règles, ils expliquent que c'est un néologisme qu'ils ont créé pour le jeu, voilà, etc. Donc bref, un encrypteur qui va piocher une carte avec un code dessus, donc un code à 3 chiffres, chaque chiffre étant compris entre 1 et 4. Donc comme je disais, par exemple, 3, 2, 4, voilà. Et il va falloir faire deviner ce code-là aux membres de son équipe. L'encrypteur va écrire un mot ou une phrase pour chacun des mots qui se cachent derrière les chiffres à faire deviner. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple que j'ai préparé, je vous avoue. Alors,
c'est pas facile
en fait,
à pitcher.
C'est la chronique. Ouais. C'est ça. C'est le jeu le plus difficile à pitcher que j'ai jamais eu à pitcher. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu préparé le truc pour tenter de faire en sorte que ce soit compréhensible. Bon, voilà. Donc, admettons que vous ayez les mots savon, escalier, podcast et poupée. Donc voilà. Donc le savon, c'est le mot numéro 1, escalier le mot numéro 2, podcast le mot numéro 3 et poupée le mot numéro 4. Jusque là, j'espère que vous suivez. Si le code c'est 3 2 1, faut donc quelque part, que je fasse deviner podcast, puis escalier, et enfin savon.
L'ordre est très important, parce que ça doit être deviné dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre.
Exactement, ouais. Il faut bien deviner dans cet ordre-là, sinon c'est un peu trop facile. Hein. Il y a que 4 mots, donc bon. Donc je vais pouvoir dire, par exemple, pour faire deviner podcast, je vais pouvoir utiliser, par exemple, écouter. Donc là, je donne simplement un mot, que je vais donc écrire sur la feuille, comme premier mot du premier tour. Le deuxième mot que je vais donner, par exemple, c'est tomber. Donc en lien avec escalier. Et le dernier mot que je vais donner, c'est glisser. Donc en lien avec savon. Donc mon équipe va devoir deviner que écouter, c'est le mot numéro 3, enfin, est en lien avec le mot numéro 3, tomber en lien avec le mot numéro 2, et glisser en lien avec le mot numéro 1. Pour mon équipe, en fait, globalement, c'est facile puisqu'elle a les mots devant elle. Elle a 4 mots devant elle. Écouter, ça paraît relativement évident que c'est pas vraiment en lien avec le savon, ni avec l'escalier, et pas trop avec la poupée. Donc, podcast, ça semble quand même assez facile. Tomber, on va regarder un peu les mots, pareil. Bon, escalier, je pense que l'indice c'est pas trop mauvais, ça va. Et enfin, glisser, donc pour le savon qui glisse.
Glisser, tomber, savon, okay. Escalier, ça peut déjà être un peu...
Mais c'est un petit peu fait exprès,
oui,
en fait.
J'imagine.
Je vais expliquer un peu pourquoi, voilà. Donc très bien, ça c'est le premier tour. Le premier tour est un peu particulier parce que il y a pas de tentative d'interception de la part de l'équipe adverse.
Pour donner 3 mots de base, quoi. 3 mots auxquels sont accrochés.
Voilà, ouais, voilà. Et puis surtout, c'est pour pas laisser l'aléatoire éventuellement rentrer en ligne de compte dans le jeu. Donc l'équipe adverse, elle fait pareil. Elle a 4 mots également, son encrypteur tire une carte avec un code à 3 chiffres, et dans le même temps que l'encrypteur, enfin, par exemple, moi j'ai joué le rôle dans l'encrypteur, donc dans le même temps que moi je vais écrire mes 3 mots, l'équipe adverse fait pareil, donc l'encrypteur de l'équipe adverse écrit 3 mots sur une feuille. Donc c'est là qu'il y a un petit peu de... il peut y avoir un peu d'attente hein, dans le jeu, parce que forcément... c'est pas forcément évident, je vais expliquer pourquoi, de trouver des trucs un peu tordus, parce que c'est justement le principe du jeu, c'est d'aller trouver des trucs un petit peu tordus, mais il y a un petit truc pour contrebalancer ça, c'est qu'il y a un système de sablier. Une fois que l'un des encrypteurs a terminé, il retourne un sablier de 30 secondes, et c'est le temps qui reste à l'encrypteur adverse pour finir. 30 secondes c'est hyper court, hein. Ça peut être vraiment un vrai coup près pour trouver les mots pour l'encrypteur adverse. Voilà, ça c'est le premier tour, ça va se dérouler comme ça. Si tout va bien, mon équipe va trouver. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin de chaque tour, on donne la solution à l'équipe adverse, dans tous les cas. Donc l'équipe adverse va savoir que j'ai associé le mot écouter, donc le verbe écouter pour le coup, à podcast. Enfin, au mot, pardon, numéro 3, voilà, au mot numéro 3, ouais. Merci, merci de me rattraper, au mot numéro 3, que le mot tomber est associé au mot numéro 2 et que glisser est associé au mot numéro 1. Et on va ainsi commencer à créer une sorte de champ lexical, c'est-à-dire qu'on a une petite feuille devant nous et on va mettre les mots qui ont été donnés comme ça par l'équipe adverse dans des colonnes qui correspondent au numéro des mots de l'équipe adverse. Au tour suivant, si j'ai le code 3-1-4, je vais à nouveau devoir, donc là ça va tourner hein, dans l'équipe, hein, donc l'encrypteur va changer, donc si c'est toi qui joues avec moi, Benefix, ce serait toi par exemple qui devrait proposer des mots.
Mots.
Voilà. Et donc si le code est 3-1-4, admettons, Benefix pourrait proposer Internet, ensuite engueulade, et enfin jambes.
Donc ça, je les annonce à voix haute,
c'est ça.
L'équipe adverse les entend, et là, à partir du deuxième tour, en fait, ils vont pouvoir essayer d'intercepter ce code.
Exactement. Pour intercepter ce code, sur quoi l'équipe adverse s'appuie ? Sur les mots qui ont été donnés au tour précédent. Donc, évidemment, au deuxième tour, il y aura eu qu'un jeu de mots,
que
trois mots. Enfin,
3 sur 4. Ouais.
Un seul mot, en tout cas, au maximum, pour vous aider à vous raccrocher au mot à trouver. Donc, Internet, est-ce que ça se rapproche plutôt du mot, de l'indice qui a été donné précédemment, glisser, de l'indice tomber, ou de l'indice écouter,
ou alors du quatrième mot,
sur lequel il n'y a pas encore d'indice. Pareil pour engueulade, et pareil pour jambe. Et en fait, voilà, c'est juste ça. Après au moins 5 minutes d'explication, c'est juste ça. Voilà. En fait, le principe, c'est qu'il va falloir essayer de s'appuyer sur des champs lexicaux pour craquer le code de l'équipe adverse, et pour empêcher que l'équipe adverse craque son propre code, il va falloir tenter justement de jouer sur des champs lexicaux différents et si possible qu'ils s'entrecroisent un peu. Alors là c'est là j'avoue que c'est si vous arrivez à faire des champs lexicaux qui s'entrecroisent, là c'est inscrit sur le gâteau hein. Là, vous paumez l'équipe adverse, c'est bon quoi.
C'est prendre le risque que ton propre partenaire ou tes partenaires ne comprennent pas non plus le code quoi.
Potentiellement, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ce qui est le truc sur enfin là, je fais presque dans les conseils stratégiques. Hein, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre équipe, elle a toujours les mots devant elle. Donc, l'idéal, finalement, enfin, après les quelques parties que j'ai pu faire, l'idéal, c'est souvent d'aller chercher des mots qui vont se raccrocher aux mots à faire deviner par élimination, finalement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas forcément un truc super direct. Mais par élimination, finalement, tu vas le raccrocher, tu vas pouvoir le raccrocher qu'à celui-là. Alors évidemment, ça
c'est
peut être casse-gueule.
Hein. Le moins rien à voir, quoi.
Ouais, ouais, voilà. Ça peut être une stratégie possible. Ça peut être un peu casse-gueule parfois, mais ça peut être une stratégie possible. Ça, ce que j'expliquais aussi, c'est qu'il y a un peu de chevaucher les champs lexicaux. Voilà, dans l'exemple que j'ai donné, volontairement, j'ai proposé jambes pour poupée, sachant que précédemment, bon alors évidemment normalement c'est pas moi qui repropose, hein, mais
il y avait
pour
tombé
l'exemple,
et glissé,
ça il y avait glissé et tombé, donc la jambe, vous voyez, on peut potentiellement aller la raccrocher à tomber et glisser, et pas se dire que c'est le quatrième mot qu'on n'a pas eu précédemment. Engueulade sur le savon parce que le premier
passer
mot.
Passer un savon.
Voilà, exactement, passer un savon. T'as tout compris. Alors que glisser, jouer sur l'aspect vraiment le savon avec lequel on se nettoie les mains, quoi. Bref, voilà, c'est un peu ça le principe. Du coup, c'est vraiment un jeu qui est un vrai casse-tête. C'est vraiment un jeu de mots pur et dur. Un jeu de mots. C'est un jeu dans lequel il faut vraiment avoir cet esprit-là. Où on a envie de déformer les mots, d'aller chercher les multiples sens possibles aux mots. On a envie de faire des jeux de mots éventuellement. Alors, je précise quand même que on doit pas jouer sur l'ambiguïté phonétique. Ça, c'est dans les règles. Mmh. C'est-à-dire que
L'équipe adverse peut demander à épeler.
C'est
en fait.
Ça. Ouais. Donc en fait, bah, techniquement, tu demandes tout le temps à épeler parce que on sait jamais quoi, tu vois. Mais si on dit vert, par exemple. Il faudra préciser si c'est le verre qui se brise, si c'est le verre la couleur, ou si c'est le verre de terre, par exemple. Mmh. Donc l'orthographe doit être précisée. Pas le sens du mot, c'est-à-dire que si c'est un vrai homonyme, au sens vraiment... voilà, ça s'écrit pareil.
Ouais.
Bah voilà, là ça s'écrit pareil, point. Alors il y a quelques petites règles comme ça, hein, qui permettent de contenir le jeu et de pas aller sur des choses un peu n'importe quoi. On est obligé de donner un indice qui est en lien vraiment avec le mot à faire deviner. J'ai un ami qui est venu chez moi et on a fait une partie. Il a essayé de me faire deviner la fin des mots en fait. Il m'a donné des indices sur la fin des mots, en gros sur la dernière syllabe des mots.
C'est tordu quoi.
Ah ouais, non, c'était complètement tordu. Et en fait, c'est interdit par les règles en fait. Voilà, parce que il faut donner un mot qui
ça
est quand même en
un
lien.
Truc qui a rien à voir quoi.
C'est ça, ouais. Voilà. Bon après évidemment, hein, c'est toujours un peu sujet à
débat,
la liaison. Oui, ça peut être sujet à débat, mais c'est pas le but du jeu, quoi. Voilà.
Ce qui est marrant aussi, ouais, c'est que en gros, t'as pas du tout besoin de deviner le mot que tes adversaires ont en face. Faut vraiment juste deviner le numéro associé à la série de mots en fait qui va s'allonger au fur et à mesure.
Oui.
Parce qu'après chaque manche, si on n'a pas réussi à deviner ou si on a réussi, hein, on va en fait rajouter les mots dans les bonnes colonnes de numéros et donc on va avoir de plus en plus d'indices.
Oui, exactement. Oui, c'est important quand même, c'est que effectivement c'est pas le mot qu'on cherche à deviner. Donc on peut
c'est
avoir
le numéro associé. Ouais.
On peut avoir trouvé effectivement les codes adverses, avoir ne plus se faire avoir sur un mot en particulier. Parce qu'on a compris le sens général, mais pas avoir le mot exact. C'est tout à fait possible. Mmh. Alors, il peut y avoir des situations d'égalité dans le jeu. On joue tous forcément le même nombre de tours. Les encrypteurs jouent simultanément, enfin, ils font leurs propositions simultanément. Et ensuite, on fait à tour de rôle, les équipes donc exposent leurs mots, et les partenaires de l'encrypteur cherchent le mot, et de l'autre côté, l'équipe adverse, l'encrypteur compris, cherche à craquer le code, quoi. Voilà. Donc chacun fait une proposition, on regarde les deux propositions, on regarde la réponse et voilà simultanément. Et ensuite on fait dans l'autre sens. Voilà. Dans tous les cas, même si une équipe gagne à ce moment, enfin gagne, je sais pas comment dire, au premier, à la première équipe qui présente en tout cas son ses mots, la deuxième quoi, équipe présentera quand même ses mots et on regarde à la fin du tour, quoi. Donc il peut y avoir des situations d'égalité où les deux équipes ont gagné en même temps ou les deux équipes ont perdu en même temps. Ouais. Enfin, bref, donc il y a des systèmes de départage. Et justement, pourquoi je parle de ça? Parce que le fait de trouver les mots, ça peut être, c'est le départage ultime. En gros, si vraiment il y a une égalité parfaite, chaque équipe va proposer les mots. Et donc c'est l'équipe qui aura trouvé le plus de mots qui gagnera. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'adore. J'ai vraiment, en fait, moi j'ai essayé ça l'année dernière. Alors, j'ai fait une première partie l'année dernière à Cannes et elle a été réussie en fait. Et c'est pour moi le plus gros défaut du jeu, c'est que souvent la première partie elle est ratée parce que le jeu il est compliqué à expliquer,
comprendre le système,
ouais. Les gens se rendent pas compte, on a beau leur dire, franchement j'ai fait je sais pas combien de premières parties, enfin pas pour moi du coup, mais pour des gens avec qui j'ai joué, et systématiquement la première partie était ratée, sauf une fois où ça a été l'inverse en fait, c'est-à-dire que les gens ils ont tellement eu peur de faire des trucs trop faciles qu'ils ont fait des trucs trop compliqués. tu vois un bon genre.
Ouais.
Donc c'est plutôt du coup ils ont perdu quoi. Ça c'est vraiment le plus gros défaut du jeu. Faut réussir à passer cette première partie ou à tomber sur un groupe de joueurs qui a compris la finesse du truc et qui place la finesse au bon niveau. Souvent c'est pas la première partie qu'on arrive à faire ça.
Après c'est un jeu qui va suffisamment vite pour que tu te dises une fois que bon la première partie est un peu pénible mais les gens ont compris le système, la deuxième t'en renchaînes une derrière qui va la deuxième va beaucoup mieux se passer quoi.
Mmh. Bah surtout que effectivement si la première partie souvent elle se termine trop vite. Donc souvent effectivement en 10 minutes t'as fini, c'est-à-dire qu'en fait les mots étaient trop faciles, les gens ont pas changé de champ lexical c'est mort quoi. La dernière fois on avait carré, je propose rond au premier, le suivant il fait triangle, tu vois. Donc ouais, voilà quoi.
C'est un mot qui est, ouais. Bon après pas parce qu'ils, enfin s'ils ont qu'un seul des mots, après tu peux toujours changer sur les tentatives d'après et les perdre justement.
Ouais
mais ça peut être une stratégie aussi d'avoir tu vois sur un mot tu donnes les deux trois premiers de manière évidente. Après quand tu vas un peu changer ça sera d'autant plus perturbant pour l'équipe d'en face je pense.
Oui, alors ça peut, et j'y ai cru d'ailleurs sur cette partie. Sur cette partie j'y ai cru parce que le troisième encrypteur a mis racine et là je me dis il y a peut-être moyen de les paumer, mais en fait par élimination et en fait ils ont compris rond triangle, ils ont fait rond triangle carré racine carré et
racine carré ouais.
Et mais c'était bien trouvé, ça aurait été super en deuxième mot.
Ouais, ou s'il y avait eu un mot en lien avec les plantes, enfin si vous aviez donné d'autres mots en lien avec les plantes, ça aurait été pas mal. Mais bon, ça aurait été risqué aussi pour votre propre équipe.
Ouais. Souvent, on se rend quand même que c'est quand même, enfin sa propre équipe, elle trouve quand même beaucoup plus vite en général que l'équipe adverse, quoi. Toi, elle fait une proposition beaucoup plus vite, quand même.
Ouais, moi j'ai eu des parties où justement. C'était des mots un peu, enfin, il y avait de la prise de risque pour éviter que ce soit trop facile pour les gens d'en face. Et voilà, j'ai eu des parties où on a perdu sur l'équipe s'est trompée deux fois, quoi.
Enfin, ouais.
Au sein de l'équipe.
Ouais,
ça arrive. Ouais.
Je l'ai vécu, même. Avec des gens trop tordus, ça peut arriver, effectivement. J'avais noté quelques autres marques. Donc le premier défaut que je trouve c'est vraiment cette barrière à passer la première partie. Donc je vous invite vraiment si vous faites une première partie à forcer et aller sur la deuxième. Alors moins que vous soyez vraiment pas amateur de genre de jeu avec où il faut structurer un peu les méninges. C'est vraiment pas un jeu de tourpeau. Hein. C'est pas un jeu d'ambiance. Ouais. C'est plutôt effectivement à comparer à Codenames, mais c'est pas du tout les mêmes sensations de jeu. Non. À mon sens, c'est plus torturé que Codenames.
C'est plus subtil, je dirais.
Ouais, moi je trouve aussi, parce que c'est vraiment, ça te force vraiment à, enfin, si tu veux bien jouer, ça te force vraiment à détourner les mots et aller chercher vraiment les différents sens possibles. Dans Codenames, tu fais une proposition, tu peux toujours faire une proposition simple qui va associer un ou deux mots. Là aussi, dans Codenames, il faut jouer un peu sur la pluralité des sens des mots.
Codenames, t'as ce côté course contre tes adversaires, c'est-à-dire faut faire deviner le plus possible. C'est là où tu vas prendre des risques. Là, c'était pas vraiment une course puisque
ça n'est pas une. Hein.
T'as le même nombre d'essais, enfin t'as le même nombre de mots, etc. C'est juste, il faut être Faut être plus subtil, plus malin que l'autre équipe.
Il y a une dimension, course parce que il faut trouver, en gros, il faut faire 2 points avant les autres, tu vois. Mais ça donne pas la même sensation du tout parce qu'en fait, tu es plutôt dans une dynamique où tu vas tenter de mettre des bâtons dans les roues des autres, tu vois. Tu tentes plus de freiner les autres que toi d'avancer.
Ouais, tu dois d'abord protéger tes codes avant de découvrir ceux des autres.
C'est ça, exactement. C'est ça la différence essentielle, en fait, elle est là, quoi. Dans le ressenti du jeu, en tout cas. Pour aller quand même sur les aspects positifs, moi je trouve que la feuille de notes, elle est hyper bien pensée. Il y a vraiment tout dessus et elle est hyper importante parce que justement, pour expliquer le jeu, pour comprendre, le fait qu'elle soit bien faite, c'est vraiment un plus. Donc dans les petits trucs malins aussi, alors je dis c'est malin, c'est une règle du jeu qu'il faut surtout pas rater, c'est que il faut à chaque tour, il faut rebattre les cartes des codes. Il faut en fait avoir la possibilité
de retomber sur le même code plusieurs fois.
Ouais. Et c'est hyper important. En fait, c'est con parce que la première fois on se dit peut-être pas tout le monde, il y a des gens sûrement plus intelligents que moi. La première fois, on se dit, je vais tirer la suivante, tu vois. Mais en fait, non, parce que le fait que l'équipe adverse puisse se dire, j'élimine le code précédent, ça lui donne des infos. Au niveau de l'ergonomie, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un défaut dans le jeu. Alors, autant la feuille, elle est super bien faite, autant ils ont fait un système pour les cartes. En fait, les cartes sont encryptées, elles aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des les mots sont brouillés par des taches rouges et en fait, quand on les place dans le petit pupitre, on a un filtre rouge et donc du coup, le mot apparaît plus lisible. Alors évidemment, si on regarde bien les cartes, on arrive à lire le mot malgré l'espèce de cryptage qui est dessus. Mais voilà, ça suffit pour que quand on place les cartes dans les pupitres, on n'arrive pas à lire le mot. Alors moi, ce qu'ils ont fait, c'est que sur les cartes, il y a un mot en haut et un mot en bas de la carte qui sont à l'envers, donc ce qui permet de jouer avec les deux côtés. Et les cartes en plus sont recto verso, donc en gros il y a 4 mots sur les cartes, donc un en haut, un en bas de chaque côté. Sauf que quand on glisse la carte, en fait en passant la carte, on voit le mot du bas. Alors à l'envers, mais on le voit quand même passer. Alors que s'ils avaient mis la petite fenêtre sur le bas et inverser les mots, et ben en fait ça ce serait pas arrivé. C'est tout con, mais voilà. Donc du coup on est obligé de cacher quand même le truc quand on glisse pour pas voir le mot d'en dessous si jamais on veut jouer. Bon, c'est pas dramatique parce que si on refait une partie derrière et qu'on simplement retourne la carte, qu'on ait vu le mot manche d'avant, ça gêne pas. Faut pas échanger les équipes, c'est juste ça le problème. Si vous voulez mélanger les équipes, du coup il faut faire attention à ça. Voilà, ça c'est la petite critique sur l'ergonomie. À côté de ça, je parlais de donc ce petit cryptage et tout là qui est plutôt rigolo en plus. Je trouvais qu'il y avait un énorme boulot sur la thématisation et sur les illustrations. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que ça fait hyper réaliste. Autant je parle de la thématisation, c'est pas non plus un thème fou, hein, je veux dire, on est des encrypteurs, on passe des messages. C'est le but du jeu, donc en même temps, ils sont pas non plus allés chercher très très loin, mais ils ont fait une recherche de thème hein, pour essayer de s'éloigner un petit peu de ça, mais il y a rien qui marchait apparemment.
Rien qui collait mieux que ça, quoi.
C'est ça. Donc du coup, ils sont restés là-dessus, mais tout l'aspect graphique qu'ils ont mis autour, je trouve que du coup, ça te met un peu dans cette ambiance-là. De cryptage et de cryptage décodage. On se retrouve avec des consoles qui ont l'air de sortir des années 70 ou 80 avec des petits boutons partout. Les effets un peu 3D font que ça a vraiment un côté réaliste, quoi.
Ouais.
Et moi je trouve que c'est super bien foutu. J'ai pas mémoire d'un jeu basé comme ça sur les mots et le langage qui ait fait cet effort là genre. Je sais pas.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros effort thématique et il va pas que dans le thème du jeu, il va dans tous les petits détails, du matériel en fait et de la boîte et des graphismes. C'est vrai que là où Codenames, le thème espionnage en fait est assez peu présent. Enfin, il est même pas présent du tout à part les petits dessins d'espions qu'il y a sur les cartes avec lesquelles on va recouvrir les mots. Mais là, il est vraiment beaucoup plus présent, effectivement. Il y a plein de petits détails, comme tu le disais. Bah, par exemple, les cartes de code, en fait, le dos des cartes, c'est une espèce de petite disquette. On a ces cartes sur lesquelles il va y avoir les mots qu'on va glisser dans le truc qui ont une forme, pareil, un peu de carte perforée, enfin enfin, ça nous replonge tout droit dans la course à la technologie et les années de guerre froide, donc c'est plutôt bien réussi. Je crois que vous en parlez dans l'interview, il y a une espèce de petite mascotte sur la boîte,
oui.
Une espèce de petit ordinateur qui ressemble un peu, vous parliez du trombone de Word,
c'est ça, ouais.
De Word, je sais plus combien, mais enfin, pour les trentenaires qui ont commencé l'informatique, vous avez tous souvenir de ce petit trombone qui vous apprenait à utiliser Word là et qui venait vous embêter tout le temps. Donc il y a un petit ordi qui ressemble un peu,
ouais, qui ressemble vaguement
boîte,
à Minitel ou.
Ouais, c'est ça. Enfin non, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Le thème, il est, enfin, sans qu'il soit vraiment présent dans les sensations de jeu, parce que c'est un jeu de mots. Il est super bien retranscrit dans le matos et dans l'aspect graphique.
Ouais, c'est vraiment l'effort qui est fait, qui est vraiment louable et qui permet une peut-être meilleure immersion dans le jeu, quoi.
Tout à fait.
À côté de ça, j'ai noté un certain déséquilibre. Je disais, en fait, dans les deux aspects du jeu, le côté encrypteur et le côté simplement où on réceptionne le code. Le rôle de l'encrypteur, il est vraiment 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 compliqué dans le jeu. C'est vraiment le truc le plus difficile. Du coup, il n'est pas forcément à exclure dans certains groupes que ce rôle-là, bah, vous le fassiez pas tourner. C'est pas forcément gênant dans le jeu. Ça peut peut-être même rajouter un peu de challenge si quelqu'un a vraiment construit un raisonnement d'un bout à l'autre. Parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver des fois frustré. On a une idée d'un premier mot associé à un mot, et puis du suivant éventuellement pour partir sur d'autres choses. Puis on se rend compte que l'encrypteur suivant il repart, finalement il reste dans votre champ lexical, et du coup potentiellement il fait peut-être un peu paumer la partie, quoi. Donc ça peut être aussi recommandé pour éviter l'écueil justement de la première partie. Peut-être de garder un encrypteur qui connaît un peu le jeu.
Qui connaît le jeu.
Voilà, ouais. Et qui va. Voilà, j'avoue, j'ai pas essayé ça. Ouais. Mais c'est pas.
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée de garder un joueur qui a l'habitude en encrypteur tout le long de la partie. Ça permet aux autres de bien comprendre aussi comment ça marche, pourquoi il faut être subtil, pourquoi il faut pas donner des indices qui se ressemblent trop.
Après, parfois on apprend des erreurs, donc tomber dans l'erreur aussi, bon, ça peut ne pas bien
c'est
se rendre
c'est vrai que le plaisir après de réussir est pas le même, quoi.
Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Voilà. Dans le jeu, il y a des temps morts, un peu comme dans Codenames, on peut en trouver, hein, mais je trouve qu'ils sont répartis différemment, ce qui fait que je les trouve personnellement moins gênant que dans Codenames où on peut vraiment passer beaucoup de temps à réfléchir à 2-3 mots et puis après c'est l'équipe adverse, donc en plus on peut rien faire pendant le tour de l'équipe adverse, alors que là il y a un petit côté simultané, même s'il n'est pas complet, hein, ce côté simultané qui pallie un petit peu ce problème qu'on peut trouver dans Codenames. Encore une fois, c'est des jeux qui ont rien à voir, hein. Enfin dans les sensations de jeu ils ont pas rien à voir, mais les sensations de jeu c'est différent, mais voilà, quelque part on se sent un peu obligé de faire le comparatif. Et je trouve que là-dessus, Décrypto est aussi un peu meilleur.
Ouais, sur la partie recherche de mots, il est simultané là où.
Oui.
Codename n'est pas forcément la partie où les deux encrypteurs réfléchissent, ça se fait en même temps et c'est potentiellement la partie qui prend le plus de temps, puisque après il y a les propositions qui vont quand même relativement vite. Enfin, en tout cas, la recherche et les propositions, ça vient assez vite.
Ouais.
Effectivement, faut les comparer. Moi, je trouve des cryptos qui est quand même un cran au-dessus d'un point de vue, enfin, au niveau de l'accessibilité, au niveau de l'âge, je pense. C'est quand même un cran au-dessus de Codenames, je pense.
C'est juste que des cryptos est plus exigeant sur le côté encrypteur. Après, je pense que tu peux jouer le côté receveur
plus facilement, ouais.
Ouais, c'est ça, plus facilement. À Codenames, tu vois, je sais pas si c'est aussi facile de jouer le côté receveur. Parce que finalement, dans des cryptos, avec des mots simples, tu peux quand même réussir à berner l'adversaire. Toi, t'es pas forcé d'aller chercher
des trucs
trop compliqués,
quoi. Oui, effectivement.
En tout cas, oui, je trouve que l'exercice mental, il me paraît plus complexe dans des cryptos que dans Codenames. Et puis, pour faire le bilan, en tout cas, de ce que moi j'en pense, c'est clairement un jeu qui est fait pour des joueurs qui sont exigeants, qui aiment vraiment se creuser la tête pour aller tirer les différents sens des mots. Mais c'est vraiment là en fait qu'on va trouver son plaisir en fait, c'est d'aller réussir à trouver des mots qui vont réussir à berner l'adversaire. Voilà, quand on arrive à faire ça, mais c'est juste d'extase quoi. Et puis à l'opposé en fait, quand on arrive justement à trouver soit trouver le mot adverse, soit vraiment réussir à coup sur coup avoir réussi à trouver un mot qui associe un des chiffres, là aussi c'est hyper jouissif. Et c'est vraiment ça le plaisir du jeu, il est vraiment là quoi. Et en fait on se rend compte que les parties les meilleures sont souvent les plus longues. Donc 30 minutes c'est une partie moyenne effectivement, ça peut durer moins si la partie est finalement pas très intéressante, ça peut durer plus effectivement quand on arrive à 6 rounds, là ça devient tendu, et en fait plus on avance dans les rounds et plus on sent les taux se resserrer et plus c'est vraiment tendu. Et c'est vraiment là que, enfin moi les plus belles parties que j'ai faites, c'est celles qui étaient, moi je suis à jamais au-delà de 6 rounds, mais c'est celles qui sont financières, autant d'un côté que de l'autre, tu vois, le fait aussi de pas réussir à trouver le code adverse, tu fais putain mais c'est pas possible quoi, tu cherches, tu structures, puis tu, c'est aussi rigolo finalement de te faire berner. Ouais. Par l'équipe adverse, tu te fais putain mais ils nous mènent en bateau quoi, ils ont réussi à trouver encore un truc différent, t'avais l'impression d'avoir trouvé, puis en fait pouf, non.
Ouais, plus que des parties longues, c'est intéressant quand les équipes sont équilibrées quoi. Quand il y a pas une équipe, oui, qui donne des mots archi simples et l'autre
des mots trop faciles,
beaucoup plus compliqué, enfin quand un certain équilibre dans les codes utilisés.
Voilà, donc du coup clairement c'est pas un jeu qui est complètement exempt de défauts, hein. En particulier du coup de la première partie, mais bon moi c'est vraiment un jeu que j'adorais. Il y a une variante pour jouer à 3 dans laquelle en gros il y a deux encrypteurs et une personne qui va tenter d'intercepter. Donc enfin deux encrypteurs, c'est-à-dire qu'en fait c'est une équipe de deux encrypteurs donc qui vont alterner le rôle de l'encrypteur et l'autre doit tenter d'intercepter deux fois l'autre équipe en 5 tours de jeu. Donc voilà, c'est une sorte de contrôle à montre. Ça marche pas mal parce qu'en fait, on a pu voir des vidéos sur internet de gens qui proposaient finalement ce mode-là. Donc ça marche pas mal. Moi, je l'ai pas essayé en vrai. Hein, j'ai juste fait le truc sur internet. Je trouvais que ça marchait pas mal. C'est plutôt intéressant. Pour rester sur le nombre de joueurs, le jeu est donné pour 3 à 8 joueurs. Personnellement, je vous conseille plutôt de jouer entre 4 et 6. Être un nombre impair, c'est pas forcément gênant. Enfin, voilà, il y aura une équipe dans laquelle il y aura 3 joueurs et l'autre et dans l'autre équipe il y aura 2 joueurs par exemple. C'est pas forcément gênant. Pourquoi le jeu déjà a été limité à 8? C'est pas tant un problème de matériel, c'est plutôt un problème technique. C'est-à-dire qu'en fait, autour de la table, si vous dépassez 4 joueurs d'un côté, et donc pour moi c'est déjà un peu limite. 4 joueurs d'un côté, ça devient problématique en fait pour discuter entre nous, pour pas que l'autre équipe entende. Et en même temps réussir à voir les mots, etc. Donc du coup, 4 ça marche bien, 6 ça marche bien aussi, à 8 ça le fait, mais voilà, c'est problématique. Mais potentiellement on pourrait jouer même à plus que 8 quoi. Et puis il y a une toute petite variante qui est plus ou moins citée dans la règle. Ils disent qu'en fait, plutôt que de proposer un mot ou une phrase, ce qui permet de donner par exemple des titres de films, des titres, voilà, c'est pas juste un mot comme dans Codenames aussi,
c'est plus libre,
ça peut être assez important. C'est un peu plus libre ouais, aussi. On peut chanter, fredonner ou mimer.
D'accord.
J'avoue que j'ai pas essayé.
Et comment tu retranscris ça sur le papier?
Et oui, c'est le problème, c'est ce que je dis à chaque fois. En gros, je dis quand j'explique le jeu, à chaque fois je dis bon, on peut chanter, mimer, machin, mais bon, après on est un petit peu emmerdé pour écrire sur le papier quoi.
Ouais, bah.
Cela dit, on peut s'en rappeler quoi, tu vois, tellement
Ouais, c'est vrai. Et pareil pour les phrases, vu la place que t'as sur la feuille, tu peux pas faire non plus des phrases des phrases à rallonge quoi.
Ouais.
Ça reste des phrases courtes,
petites quoi. Voilà, je sais pas, t'as des choses à rajouter de ton côté?
Bah pas spécialement, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Moi c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié aussi. J'ai pas fait encore énormément de parties, mais c'était un de mes coups de cœur de Cannes. Après effectivement c'est pas forcément facile à pitcher quand tu as des amis que tu veux leur proposer le jeu, que tu dois leur pitcher rapidement pour leur expliquer ce que c'est, et ils te regardent avec des yeux ronds comme des merlus là, et tu leur dis bon bah on va jouer, et puis ce sera plus simple en jouant.
Ouais, c'est que... ça. Ouais, et en fait c'est le jeu, il faut l'imposer c'est au ça, départ. Ouais, c'est dire on va jouer à ça, vous allez voir,
ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué de leur donner envie en juste le pitchant quoi, c'est mais à part ça, ouais, ça c'est super agréable, et ça renouvelle un genre qui enfin Codename a participé à ça aussi, mais ça participe à mettre en avant un genre qui est pas forcément très répandu quoi. Ce jeu de jeux de société à base de mots qui soit pas des trucs type
Scrabble,
voilà, ouais. c'est vraiment pas mal.
Là, le fait que ce soit pas, tu vois, c'est le langage parlé finalement, tu vois, ça joue aussi beaucoup. Hein, c'est pas de le mot écrit, donc ça joue aussi. Il y a pas de problématique d'orthographe, tout ça.
Faut pas jouer avec un dictionnaire, un dictionnaire à côté.
Alors bon, c'est vrai que pour l'orthographe, si l'équipe adverse elle te demande des plaies, enfin c'est pas ça qui se trouve derrière, c'est le sens
du mot.
Donc voilà, si on a un doute sur l'orthographe, on peut dire bah voilà, c'est comme disait le ver par exemple, si soi-même on a un doute sur l'orthographe du ver de terre, bon voilà, on dit que c'est le ver de terre quoi. Hein.
Tout à fait.
Donc Décrypto, c'est un jeu de Thomas Dagenet L'Espérance, édité par le Scorpion Masqué, illustré par Nils Manuel Sanchez, Fabien Fucheron. C'est pour 3 à 8 joueurs, des parties d'environ 30 minutes à partir de 12 ans, et c'est chez Philibert pour 17,90€. Et ça aussi, ça a souligné, c'est que le jeu il est vraiment vraiment pas cher quoi. Allez, on passe à la suite. Tu nous parles de Welcome.
Très bien, je vais vous parler de Welcome. Welcome, c'est un jeu de Benoît Turpin, illustré par Anne Heitzik, c'est édité par le Blue Cocker, c'est pour 10 ans et plus, pour des parties d'à peu près 25-30 minutes, et c'est annoncé de 1 à 100 joueurs, je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi, mais c'est annoncé jusqu'à 100 joueurs. Alors, Welcome c'est quoi? Ça se passe, vous incarnez en fait des architectes dans les années 50, aux États-Unis, plein baby boom aux États-Unis, donc besoin de logement. Donc vous êtes un architecte qui allait devoir construire ou aménager des lotissements dans une petite ville. C'est une thématique qui est plutôt bien adaptée au jeu, mais je vais vous expliquer un peu le jeu. Le jeu au départ c'est plutôt un roll and write. Vous savez, tous ces jeux où vous allez lancer des dés et avoir une petite fiche dans lesquels vous allez soit dessiner, soit marquer des choses, soit cocher des cases, etc. Donc toute la famille un peu dérivée du Yams. Mais là, c'est même écrit sur la boîte, c'est un roll and write sans dés. Donc on va pas rouler des dés pour...
sans roll.
Voilà, sans roll. Sans, je sais plus comment c'est écrit sur la boîte. Attends, faut... Un jeu de dés à cocher sans dés.
Voilà. Effectivement.
Donc voilà.
Et donc ils ont trouvé une formule en français du coup, parce que c'est vrai que je savais pas comment dire en français.
Ouais, c'est ça. Ils ont mis en anglais c'est a roll and write game without dice. Ouais, en français ils ont mis un jeu de dés à cocher sans dés. Donc c'est un jeu de dés à cocher. On va utiliser ce terme. Hein, c'est mieux de parler en français. Sauf qu'il n'y a pas de dés. Donc à la place des dés, on va avoir des cartes. Donc le principe, on a chacun devant nous une petite feuille. Sur cette feuille, on a trois lignes avec des maisons sur ces lignes, donc qui représentent les trois lotissements. Et on va inscrire des numéros dans ces maisons.
C'est les numéros dans la rue.
Voilà,
quoi.
C'est les numéros de la rue. Et en fait, on estime que quand on met un numéro dans une maison, c'est qu'on l'a construit en gros. Il va falloir construire les maisons dans le lotissement. Donc la règle de base est assez simple. Quand je construis une maison, je peux la construire c'est des numéros en fait qu'il va y avoir sur les cartes. Je peux la construire n'importe où. Au début, quand toutes les maisons sont vierges, bah, je mets mon numéro où je veux sur la maison. Mais après, la règle, c'est que dans la ligne, donc dans chaque lotissement, je dis il y a trois lignes de lotissement, si je viens mettre un deuxième numéro dans ce lotissement, s'il est à droite d'un numéro que j'ai déjà mis, bah, il devrait être strictement supérieur. Et s'il est à gauche, il devrait être strictement inférieur. Et donc, il faudra respecter cette règle avec toutes les maisons entre elles, en fait. Donc, faire vraiment des numéros croissants de gauche à droite, sans qu'il y ait de numéros aussi qui soient identiques. Donc,
et pour le coup, ça, c'est thématique.
Ça, c'est assez thématique, ouais. La thématique est plutôt bonne. C'est vrai que y a pas, les numéros, généralement, sont pas dans un ordre quelconque. Ça va bien croissant. Donc, effectivement, ça correspond très bien. Là, le thème est très bien appliqué. Comment ça va se passer? En fait, c'est un jeu, c'est un jeu de dés à cocher sans dés, mais on sent bien que l'idée première était plutôt avec des dés, puisque on va avoir une rareté des chiffres les plus extrêmes. Donc, les cartes ont des numéros qui vont de 1 à 15. Et en fait, les numéros très bas, donc le 1, 2, vont être très rares. Et pareil pour le 14, 15. En fait, plus on va s'éloigner des numéros médians, plus les numéros vont être rares. Donc, c'est-à-dire que les 1 et les 2, je crois qu'il y en a 3. Pareil pour les 14, 15. Et 9, numéro 8. Voilà. Donc, plus on est... le 8 étant le numéro central, c'est le numéro de maison qui va être présent. Le plus présent. Donc... c'est assez simple, à chaque tour de jeu, on va tirer 3 cartes. Sur chacune de ces cartes, il y aura un numéro. Et on va devoir choisir un numéro pour le rentrer dans une de ces maisons. Donc on est obligé de remplir une maison, on ne peut pas passer. Si à un moment on ne peut pas du tout construire, on va faire un refus de permis de construire. Donc on va cocher une case. C'est une des conditions de fin de partie si quelqu'un n'a pas pu construire 3 maisons dans toute la partie parce qu'il n'avait vraiment aucune possibilité de construire, la partie s'arrête. Alors,
on met fin à ses souffrances.
On met fin à ses souffrances. Pareil, si une des autres conditions, c'est si quelqu'un a réussi à remplir toutes ses maisons, donc si toutes les maisons des 3 lotissements se remplissent avec des chiffres, la partie s'arrête. Et il y a une troisième manière d'arrêter la partie, mais je vais devoir expliquer un peu plus en détail le jeu pour vous l'expliquer. Donc, ça ne s'arrête pas à juste remplir des chiffres. Il y a, parce que sinon, ça pourrait marcher, mais il y aurait un intérêt plutôt moyen.
Bah, ça marche, ça existe, ça s'appelle bout à bout.
C'est ça, ça s'appelle bout à bout.
Ah, c'est pas bien de dire du coup que ça a un intérêt moyen. C'est très sympa bout à bout, mais effectivement, on va dire que ce serait presque l'épure de ce truc-là.
C'est ça. Voilà.
Mais c'est sympa bout à bout aussi. Ça s'appelait, pour ceux qui connaîtraient, ça s'appelait Streams.
Ah oui, exact. Exact, Stream. Donc là, ça va un petit peu plus loin, puisque on va avoir une série de bonus ou de pouvoirs qu'on va pouvoir appliquer. Au niveau de la pioche, les cartes sont empilées en fait en 3 tas, et en fait la pioche se fait avec les numéros visibles, comme si voilà, on voit d'abord 3 tas avec 3 numéros. Et en fait, au premier tour, on va retourner les 3 premières cartes. Et en fait, au dos de ces cartes, il va y avoir une illustration avec un pouvoir. Si bien que à chaque tour, il y aura 3 duos avec à la fois un numéro et la carte qu'on aura retournée au tour d'avant ou la première carte qu'on aura tournée au début du jeu avec un pouvoir. Quand on va choisir le numéro, on va pouvoir appliquer éventuellement, c'est pas une obligation, le pouvoir ou le bonus qui est associé. Sur la carte avec le numéro aussi, on va pouvoir voir dans le coin le bonus qu'elle a au dos. C'est-à-dire qu'on saura au prochain tour... pour chaque carte, quel bonus va être disponible au prochain tour, sans voir forcément le numéro qui est en dessous. On sait le bonus, mais on ne sait pas le numéro qui aura au prochain tour.
Oui, bah oui.
Donc voilà, à chaque tour, chaque joueur va choisir une combinaison d'un chiffre et d'un pouvoir qui lui associe. Hein. On ne peut pas mélanger, en fait, c'est toujours le pouvoir qui est au niveau de la même du même tag carte que le chiffre qu'on prend. Donc ces pouvoirs, ils sont divers. En fait, on va pouvoir... Le premier pouvoir, c'est de créer des séparations dans les rues, en fait, pour créer justement des lotissements. Ça change pas dans chaque rue la règle de mettre des numéros croissants.
Et pour les numéros, hein.
Ouais, ça change pas la règle des numéros, mais ça va faire des séparations qui vont permettre, en fait, de faire des points ou de construire...
De remplir
des objectifs.
De remplir des contrats.
C'est ça. Il y a une autre carte bonus qui est, on va dire, la spéculation immobilière. Ça permet d'augmenter la valeur de tel type de lotissement. On a un troisième bonus qui est le numéro bis. Donc le numéro bis, si on a fait une erreur...
Comme dans Astérix.
Comme dans Astérix. Comme le scribe dans Astérix.
Désolé.
Non mais on a les mêmes références, ça va. Le numéro bis, donc si vous faites une erreur pendant la partie, imaginons vous avez mis un 8, vous avez laissé un espace et vous avez mis un 9 après. C'est-à-dire qu'entre le 8 et le 9, logiquement, on ne peut rien mettre, puisqu'il n'y a aucun...
Bah déjà, entendons-nous, c'était con.
Ouais, voilà, c'était con. Mais bon, on peut faire des conneries, on a le droit de faire des conneries. Donc c'était con, mais peut-être que vous n'aviez pas eu le choix. Parce que donc le bis, qui est associé à un numéro, par exemple, vous avez un 5 et un numéro bis. Donc le 5, vous le mettez où vous voulez, classiquement. Et en fait, le numéro bis va vous permettre de mettre un numéro identique après un numéro déjà existant. Donc typiquement, là, mon 8, il y a un espace et un 9. Je vais pouvoir inscrire un 8 bis.
Il n'y a pas le terre.
Il n'y a pas de terre, ça s'arrête au bis. Sauf que ça, si on en utilise trop, enfin à partir du moment où on utilise, ça va être plutôt des malus en fin de partie. Ensuite, on a un bonus assez intéressant qui est le bonus chantier. Donc le bonus chantier, il permet de moduler en fait le numéro de la carte à laquelle il est associé. Par exemple, j'ai un 8 justement associé à un chantier. En fait, on va pouvoir moduler le numéro de plus ou moins 1 ou 2. En plus, il y a une petite course à la majorité pour gagner des points à la fin.
Ah, c'est pas des, ça fait pas des malus, ça. C'est la...
Non, ça c'est bien parce que non, ça embauche des intérimaires, ça fait de l'embauche pour la ville. Donc les chantiers, c'est des bonus.
D'accord.
Ensuite, on a un bonus piscine. En fait, là, c'est assez simple. Si par exemple j'ai un numéro 7 qui est associé à une piscine, je peux écrire le numéro 7 dans n'importe quelle maison normalement. Ça me donnera pas de bonus. Par contre, sur la petite fiche de score, il y a certaines maisons qui sont dessinées avec des piscines. Donc si j'arrive à mettre un numéro qui est associé à un bonus piscine dans une maison où il y a une piscine de dessinée, je vais avoir des bonus pour la fin de partie.
Et ça, tous les plans sont pareils. Donc tout le monde a les piscines au même endroit, il n'y a pas de,
c'est ça.
Pas de variation là-dessus.
Non, il n'y a aucune variation, les fiches que vous avez devant vous sont exactement les mêmes. Et pareil, les choix des cartes, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que potentiellement, c'est ça qui est intéressant avec ce jeu aussi, c'est que ça va vraiment être de l'optimisation, parce que potentiellement, deux joueurs peuvent faire exactement les mêmes choix au même moment, les mettre dans les mêmes maisons, etc. On pourrait cloner vraiment. Et en fait, celui qui va gagner à la fin, c'est celui qui aura le mieux optimisé dans quelle maison il va mettre tel chiffre et dans quelle combinaison de cartes il va prendre.
La différence avec bout à bout, c'est que tout le monde a le même tirage exactement. Mais là, c'est pas tout à fait le cas. Pas tout à fait le cas. Tout le monde a le même tirage, mais t'as un choix de 3 à chaque
fois.
Voilà.
Donc tu peux ne pas choisir la même chose.
La philosophie.
Et surtout qu'avec des bonus type le chantier, justement, qui peut moduler, tu peux te retrouver à choisir le même duo de cartes, mais pas c'est inscrire
ça,
le
pas
même nombre
le même numéro,
dans
ouais.
le même numéro dans, sur ta fiche. Et donc, il y a un dernier bonus qui est possible, c'est les parcs. Dans chaque rue, on peut construire un certain nombre de parcs. Donc la première rue qui est la plus... En fait, les rues vont croissantes. Donc en fait, dans la première rue, il y a moins de maisons que dans la dernière. Vous avez 3 rues, mais il y a un petit peu... Il y a une maison de plus à chaque fois, je crois, dans chacune des rues. Et pareil, dans la première rue, il y a 3 emplacements possibles pour mettre de la verdure, des parcs, des arbres. Enfin, c'est comme vous voulez. Et donc si j'ai une maison, par exemple, numéro 5 avec le bonus arbre ou parc, si je remplis la maison dans la rue 1, je vais pouvoir cocher un des parcs disponibles dans la rue 1. Plus j'en coche, bien sûr, plus je vais avoir de points. Donc ça, c'est vraiment le jeu de base. À chaque tour, je vais choisir un duo, je vais remplir ma case avec les différents pouvoirs que je viens de vous expliquer. Donc ça, c'est... Finalement, dans cette partie-là, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. C'est vraiment chacun fait sa popote à chaque tour. Une fois que tout le monde a inscrit, on passe au suivant, etc. Il va y avoir un peu d'interaction qui est ramenée dans le jeu, au travers d'objectifs. Donc à chaque partie
de course quoi.
C'est ça. La course aux objectifs. Donc à chaque partie, on va dévoiler 3 objectifs. Les objectifs sont sur le plan d'aménagement de la ville en fait, sur le plan d'urbanisme. Donc la ville va demander aux architectes 3 aménagements dans les différents quartiers. Et en fait, ça va être des combinaisons de lotissements. Donc par exemple, le premier plan d'aménagement demande à ce qui dans votre quartier il y ait, je sais pas, 2 lotissements de 4 maisons. D'accord ? Donc il y a 3 objectifs différents. Et là, c'est une course parce que le premier qui va remplir ses objectifs, enfin cet objectif en particulier, le premier qui va le remplir, il va avoir un certain nombre de points. Donc ça varie en fonction des objectifs. Mais en tout cas, s'il est le premier à l'atteindre, il aura plus de points que les suivants qui vont atteindre le même objectif. Donc il y a une course à ce niveau-là, puisque le premier à atteindre un objectif sera plus largement récompensé que les suivants. Et donc c'est pareil sur les 3 objectifs. Pour chacun des objectifs, il y a un nombre de points de victoire qui est assez important pour le premier. Et après, tous les autres qui le rempliront, tout le monde peut le remplir quand même. Mais ce sera un petit peu moins de points.
Ce sera un peu moins.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces objectifs, en fait, je ne peux pas réutiliser mes maisons, enfin mes lotissements, d'un objectif à l'autre.
Ouais, ce sera un peu trop facile.
Voilà. Pareil, ça c'est la dernière condition de fin de partie, enfin la dernière possibilité de fin de partie, c'est si quelqu'un a réussi, une même personne a réussi à remplir les trois objectifs de plan d'urbanisme. À la fin de la partie, du coup, on va additionner le score. Donc le score, il est composé de les objectifs du plan d'urbanisme que j'ai rempli, combien j'ai fait de points. Donc la fiche est assez bien faite, puisque en bas, en fait, on a chacun des différents moteurs de points. Donc ça fait des additions déjà en colonne, on va dire. Et après, il y a la ligne du bas qui est l'addition totale qui nous fait arriver au total de points. Donc on va scorer sur les objectifs de lotissement. On va scorer, comme je disais, sur les différents parcs qu'on a construits. On va scorer sur les maisons avec piscine qu'on a construits. Il va y avoir un petit jeu de majorité sur les chantiers. Donc celui qui aura fait le plus de chantiers, qui aura embauché le plus de personnes, en fait, va avoir voilà, là il y a trois valeurs, il y a un 7, un 4, un 1. Donc celui qui en aura fait le plus aura 7, le deuxième 4, le troisième 1. Voilà, il y a une petite course à la majorité avec les trois premiers qui sont récompensés. Ensuite, on va avoir la vente de nos lotissements. Donc là, en fait, pour chaque type de lotissement à une maison, lotissement à deux maisons, lotissement à trois maisons, il va y avoir un multiplicateur. Et c'est là où le bonus de spéculation nous permet de monter en fait ce multiplicateur. Donc à chaque fois qu'on va utiliser un bonus, on pourra monter le multiplicateur d'un des types de lotissement. Donc ça va nous faire des points pour chaque type de lotissement. Ensuite, on a des points négatifs. On a des points négatifs pour les numéros bis qu'on aura construits. Et ensuite, il y a aussi des points négatifs pour les refus de construire. Parce que si vous avez des refus de construire, si un tour, il y a des cartes qui sont tirées et que vous ne pouvez construire nulle part, vous pouvez rien en faire, et ben vous faites un refus de construire. Et si vous faites plusieurs refus de construire, le premier est gratuit, je crois, et les suivants vous font perdre des points. On additionne tous les points, on a un score à la fin, et c'est fini. Donc c'est assez...
C'est le plus correct qui gagne.
Voilà, celui qui a le plus de points qui gagne. Donc c'est assez simple. C'est un jeu qui est relativement accessible. Il y a des petites variantes, donc il y a aussi une variante un joueur, en fait, avec une carte qui permet de... En fait, tu dois tirer un certain nombre de cartes. En gros, c'est un espèce de décompte. T'as un nombre de tours qui est plus ou moins fixe, parce qu'il peut varier, et faut faire le plus grand nombre de points avec ce système. Et t'as une variante un peu plus experte aussi, ou qui rajoute un pouvoir, en fait, qui est le pouvoir du rond-point. Donc le rond-point te permet de démolir une maison, en fait, d'en faire un rond-point, et en fait ça fait comme s'il y avait deux rues. Donc là, de chaque côté de la rue, tu peux repartir avec des
numéros. Ah, tu peux repartir croissants avec des numéros, d'accord. Et du coup, ça t'enlève des points, j'imagine, quand tu fais du rond-point.
C'est ça, les rond-points aussi t'enlèvent des points.
Ok.
Voilà, donc c'est de 1 à 100 finalement, puisque déjà parce qu'il n'y a que 100 feuilles de 100 feuilles de
dans le livret,
dans le bloc-notes, il n'y a que 100 feuilles pour jouer, mais c'est en fait potentiellement ça peut jouer à beaucoup plus, puisque avec un système quelconque de projection des cartes qui sont tirées, chacun remplit sa petite feuille dans son coin. Faut juste se signaler quand on remplit l'objectif, mais bon voilà, après l'objectif reste valable pour les autres avec juste un peu moins de points. J'étais en train de me dire en fait que ça pourrait être une idée de Twitch avec on poste les cartes sur le Twitch et puis les gens remplissent leurs feuilles chacun chez soi, et on pourrait faire un jeu comme ça. On pourrait faire une partie en live.
Ça se tente.
C'est pas mal, parce que je me rends compte, je crois que je l'ai déjà dit dans l'épisode de Cannes, mais que je suis assez client des Roll and Write. Il y en a beaucoup, enfin ça ressort pas mal ces derniers temps.
Depuis 2 ans.
C'est ça.
Ouais, il y en a pas mal qui sortent. Ouais.
On a eu Dice Star, on a eu Encore, que j'aime beaucoup aussi, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il y a Penny Paper chez Sit Down, donc
qui est en train de sortir là.
Qui est sorti. Enfin, moi j'ai acheté quelques boîtes à Cannes. De Dice Star, donc c'était chez Matago. Penny Paper chez Sit Down. On a Encore qui était chez. Enfin,
la
qui
route
est chez
des
Schmitt.
Vignes aussi.
Il y a la route des vignes. Il y a Superlude.
Il y a des Doodles, je sais pas quoi.
Voilà,
aussi,
Doodle Island. Il y a Superlude en fait qui annonce qu'il va faire une gamme spécifique Roll and Write. Donc c'est un genre qui se développent pas mal.
Qui en, ouais,
ouais,
qui vont
que moi j'apprécie, que moi personnellement j'apprécie plutôt. Et bah Welcome, il est vraiment arrivé au bon moment pour moi par rapport à cette nouvelle passion. Je le trouve vraiment intéressant. Le fait que ce soit des cartes et pas des dés, c'est vraiment pas mal. Le fait que tout le monde ait la même information au milieu, c'est vraiment pas mal. En fait, je pense qu'ils sont passés sur des cartes pour justement le système de pouvoir et de bonus. Parce que pour le reste, ça aurait très bien pu jouer avec des dés. En fait, bon, si
bah, il y a aussi l'équilibre, je pense, peut-être. La répartition, t'assurer que dans la partie, t'auras bien tous les chiffres qui vont tomber.
C'est ça, ouais.
Et puis, le fait aussi, alors je sais pas du coup si ça s'est intervenu ou pas, mais du coup, t'as le 1.
Oui.
Que tu peux pas avoir sinon avec des dés, et puis tu vas plus loin aussi, c'est-à-dire qu'ils vont pas de 2 à 12, ils vont
devoir un 15, ouais, ils vont un petit peu plus loin. C'est vrai qu'avec les dés, bah, après les probabilités sont à peu près les mêmes, effectivement ça élargit un petit peu, ça élargit et ça donne
spectre,
l'assurance,
ouais,
que la probabilité en fait elle est vraiment, enfin, que
bah, en fait ça aurait pu se faire avec 2 dés 8,
oui,
mais t'aurais commencé à 2,
de 2
du
à
coup,
16 ça aurait
décalé,
ouais,
aussi. Ouais, ça aurait été
un peu moins logique par rapport
aussi,
à la thématique. Et puis ça aurait été, enfin, il aurait quand même fallu des cartes pour gérer l'histoire des pouvoirs. Et puis comme t'as le choix entre,
un dé spécifique.
Ouais, et puis comme t'as le choix entre 3 numéros différents, t'aurais dû lancer, je sais pas, 3.
Ah oui, c'est vrai.
Bah enfin, voilà, c'est. Je pense que, enfin, on sent que au niveau de la probabilité des cartes, en tout cas.
Il fallait 9 dés dans le jeu, en fait. C'était trop cher. À vous, Alain. C'était trop cher.
Non, mais par rapport à la probabilité des cartes, on sent bien que, et puis je crois qu'Alain nous l'a dit, hein, que c'était au départ le jeu était avec des dés. Mmh. Et bah, le fait que ce soit avec des cartes, bah, ça marche vraiment bien et c'est très agréable.
Les cartes, c'est beaucoup plus ergonomique aussi. Hein,
c'est ça.
Par rapport à des dés, si t'avais dû lancer des dés à chaque fois.
C'est ça. Oui, en fait, il y a la confirmation dans les remerciements que c'était avec des dés avant, puisque dans les remerciements, on a un petit waf au Dice Killer Fred et Didier. Donc, il y a des gens qui ont eu l'idée de killer les dés à un moment. Je l'ai pas dit, mais il y a une grande variété d'objectifs aussi. Sur les objectifs, il y a vraiment plusieurs. Enfin, il y a un beau paquet de cartes pour renouveler les 3 objectifs, avec des objectifs justement qui sont relativement abordables, et après il y a des objectifs un peu experts qui sont un petit peu plus hardcore. Enfin, je l'ai déjà dit, hein, moi je le trouve très intéressant, le côté en fait optimisation, parce que tout le monde a vraiment la même donnée d'entrée, et du coup celui qui gagne à la fin, bah, c'est celui qui a le plus optimisé. Alors c'est pas forcément le truc optimal, c'est pas le truc, ça se trouve quelqu'un avec le même tirage aurait fait plus de points, mais c'est celui parmi les joueurs qui a le plus optimisé ses cartes. Après il y a forcément une petite partie d'aléatoire, puisque quand tu pars sur une stratégie, ben faut qu'il y ait la bonne carte ou les bonnes cartes qui sortent au bon moment, et forcément
associé au bon numéro,
associé au bon numéro, voilà,
le pouvoir associé au bon numéro.
Après tu c'est la petite partie aléatoire, c'est juste la pioche des cartes. Après tu contrôles bien ce que tu fais, où tu mets les numéros, etc. Donc il y a quand même un assez gros contrôle. Ce qui est marrant, c'est que généralement dès le premier ou le deuxième tour, tu sens que les gens font pas du tout la même chose.
Ouais, et puis quand tu dis tu pars sur une stratégie, tu fais pas, c'est pas non plus du mono stratégique, quoi.
Non,
tu
c'est
fais forcément différentes choses. Même si tu fais pas les, je sais pas combien, il y a 5 façons de mettre des points.
C'est ça.
Après.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Même si tu fais pas les 5, t'en fais bien au moins 3, quoi. Enfin, tu peux pas te contenter de 2 trucs et encore moins d'un seul.
Non, c'est sûr. Tu dois jouer sur les plusieurs tableaux, mais après tu peux jouer sur plusieurs tableaux en te spécialisant vraiment dans un ou deux où tu sais que tu vas essayer de faire beaucoup de scores. Les parcs notamment, ou les piscines, si t'arrives à en faire un certain nombre, je crois que si t'arrives à construire vraiment toutes les piscines, ça fait 36 points à la fin quand même. Donc ça peut être, sachant que en gros ça score. Les plus gros scores que j'ai vus étaient aux alentours de 110-120, mais vraiment c'était des très très grosses parties.
Et ça fait les quarts des points déjà.
C'est ça, et les plus petits peuvent être à 60, entre 60 et 80, quoi. Enfin, généralement ça tourne autour de 60, 70-80. Avec un score, ouais, les scores moyens, je pense que c'est 80-90, ouais, par là. Donc voilà, c'est ce côté aussi multiple stratégie, multiple façon de scorer qui donne un intérêt supplémentaire. Alors j'ai pas joué à Stream pour le coup, mais qui donne un intérêt, enfin qui moi m'intéresse par rapport à peut-être un roll and write plus, comment
classique.
Dire, plus classique, et voilà, avec des manières de scorer moins variées.
Tu penses à quoi? À Encore?
Non, mais Encore, Encore, c'est Encore, il est assez particulier en fait. Mais c'est vrai que dans Encore, les manières de scorer sont Encore, ça va plus, on va plus jouer sur la sensation de, enfin c'est de l'optimisation aussi, mais ça va plus être une course aux objectifs. Parce que dans Encore, pour le coup, c'est vraiment, on a exactement le même système d'objectifs avec des points qui sont plus importants pour le premier à le remplir et moins importants pour les suivants. Mais dans Encore, il y a vraiment que ça, quoi. C'est vraiment de la course aux différents objectifs. Alors les objectifs sont soit sur les colonnes qu'on remplit, soit sur les couleurs. Enfin, je vous invite à jouer Encore si vous n'y avez jamais joué. Mais ouais, sur Encore, ça va être voilà, on va pas se demander sur quelle stratégie on veut partir. On va plus se demander qu'est-ce qu'on va remplir en premier. C'est assez différent.
Bah, alors, est-ce que tu trouves que, enfin, la question que je me posais, moi j'ai fait qu'une partie à Cannes.
Ouais.
Est-ce que à la longue, t'as pas l'impression que c'est pas le jeu type trop équilibré? Tu vois, genre en fait, t'as 5 façons de mettre des points, mais le truc il est tellement, tellement bien équilibré qu'au final tout le monde se retrouve avec 10 points d'écart à la fin.
Non, pas du tout, parce que, enfin, après ça dépend des joueurs, mais. Moi, je me suis déjà retrouvé avec des parties où il y avait des gros écarts de score. Hein.
Ouais.
Enfin, surtout, c'est d'autant
c'était
plus.
C'était pas une différence d'expérience dans le jeu.
Si, ça effectivement, c'est aussi une différence d'expérience dans le jeu. Mais tu vois, moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé une stratégie qui était plus efficace qu'une autre, c'est-à-dire commencer à remplir la rue la plus grande et essayer de faire que ça tant que je peux. Puis après, progressivement, aller sur les autres rues pour justement essayer de faire beaucoup de points sur, par exemple, sur les parcs, sur la rue la plus basse, où si on est rempli tous, on a 18 points à la fin. Essayer de faire très mono aussi lotissement, c'est-à-dire faire que des lotissements de 4, par exemple, et monter à fond la spéculation sur les lotissements de 4. J'avais des stratégies comme ça qui m'ont fait gagner une ou deux fois, donc j'ai essayé de faire ça toujours pareil. Mais en fonction du tirage, en fait, faut quand même s'adapter. Tu peux pas dire je fais une stratégie qui va être tout le temps gagnante, parce que j'ai fait des parties après où en appliquant une stratégie similaire je me suis fait battre assez largement de 10 ou 15 points. Donc ça te fait te dire que non, en fait il faut que je regarde vraiment toutes les cartes, et il faut pas que je me dise parce que celle-là elle va rentrer là où ça va me permettre de faire plus rapidement un lotissement à 4, il y a une partie opportunité aussi qui est importante, je pense.
Ça joue peut-être finalement plus là-dessus, quoi. Tu vas jouer sur une petite part de stratégie où tu vas dire, bon, il faut que j'essaie quand même de m'orienter sur peut-être 3 façons de mettre des points.
C'est ça.
Et après, tu vas jouer un peu sur l'opportunisme pour tirer une des façons plus qu'une autre, quoi.
C'est ça. Forcément, au début, tu vas un peu à l'aveugle. Enfin, tu vas choisir quelle rue tu vas commencer, où tu vas placer tes premières maisons, etc. Donc ça c'est un peu propre à chacun, et je pense pas qu'il y ait une meilleure stratégie qu'une autre. Et après, en fait, en fonction de ce qui sort par rapport à ce que tu auras fait au début, c'est là où faut vraiment optimiser. Mais ce côté justement optimiser plus que l'autre, même si le score est serré, si la personne termine avec un point de plus que toi, et même si c'est bien équilibré, ça veut dire qu'à un moment t'as fait des choix plus pertinents que l'autre, quoi. Donc
en fait, enfin, c'est pas, il y a des jeux comme ça où c'est tellement équilibré qu'à la fin tu sais même pas pourquoi c'est toi qui as gagné, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est désagréable comme sensation. Si tu me dis que c'est pas le cas,
j'ai dû faire une petite dizaine de parties, hein. J'ai pas non plus fait 50 parties encore. J'ai dû faire 8 ou 9 parties.
Ça se voit au bout de 3-4
parties. J'ai pas encore eu cette sensation. Et les fois où j'ai gagné, je trouvais que j'avais fait, enfin, j'avais la sensation d'avoir bien rempli ma ville.
Forcément.
Les fois où j'ai pas gagné, où c'était serré, j'avais l'impression de bien remplir ma ville, mais voilà, quelqu'un a quelques points de plus, donc ça veut dire qu'il l'a mieux rempli que moi. Et voilà, il y a des fois où tu te dis, bon, tu le sens, hein, tu te dis, bon, là j'ai pas fait les bons choix, et tu sais que tu vas avoir du mal à scorer,
que tu vas loser.
Voilà, tu sais pas pourquoi t'as gagné, tu le sens en cours de partie, en fonction des choix que tu fais, tu le sens progressivement en fait arriver. parce qu'au fur et à mesure, les choix que tu fais au début ont des conséquences sur ce que tu vas pouvoir faire à la fin. Donc ça, tu le sens arriver. Enfin, le côté je vais pas scorer beaucoup, je vais scorer beaucoup, tu le sens vraiment arriver en cours de jeu, et ça c'est plutôt pas mal. Okay. Voilà.
J'avais encore une question sur est-ce que tu arrives à exploiter l'info que t'as au dos des cartes sur le pouvoir qui va arriver?
Pas tellement finalement, c'est vrai que
en fait moi je me suis posé la question sur une première partie, je me suis dit de toute façon oui sur une première partie on va l'exploiter quoi. Comme on sait pas le numéro sur lequel ça va être associé, je sais pas.
En fait, c'est vrai que t'as pas forcément le réflexe de le regarder. C'est pas un truc qui vient, enfin tu te dis pas bon je vais absolument regarder enfin pour moi c'est pas si tu veux ça va pas être
c'est le niveau 3e Dan.
Ouais, ça va pas être. Pour moi, c'est pas encore décisif sur le choix de ma carte précédente. Je vais pas me dire, comme il y a ce pouvoir-là, je vais prendre cette carte-là, alors que s'il y avait eu autre chose, j'aurais pris une autre carte. Par contre, je vais me dire, cool, il va y avoir un parc. J'aimerais bien faire un parc, faire à fond les parcs dans cette rue-là. Donc je peux me dire, cool, il y a un parc. Donc j'espère que, en fait, c'est juste, j'espère qu'il sera associé à ce numéro-là.
Ouais.
Enfin,
ce serait intéressant d'avoir un retour sur cet aspect-là. Ouais. Parce qu'apparemment, il a l'air d'écouter de temps en temps nos podcasts. Ce serait intéressant d'avoir un retour sur cet aspect. J'imagine que dans le développement du jeu, tu vois, ça s'est révélé.
C'est une question qui s'est posée, sur est-ce qu'on l'a mis, est-ce qu'on l'avait pas. Après.
Est-ce que c'est juste pour rendre le jeu encore intéressant, tu sais, quand on a fait 50 parties et donc, c'est ce que je disais, en gros, il faut être 3e Dan à Welcome pour l'utiliser.
C'est ça.
Ou je sais pas, est-ce que on n'a pas compris un truc.
Non, mais
on est mauvais.
Après la réflexion, ça a peut-être été aussi, on donne un peu plus d'informations, donc ça permet éventuellement à certains joueurs d'anticiper et d'établir la stratégie. Au mieux ça sert et c'est cool. Au pire ça sert pas et c'est pas une information. C'est pas quelque chose de très grave s'il y a l'information et qu'elle est pas utile.
Non, bien sûr, non, mais bon, j'imagine fait l'effort, c'est qu'il y a un intérêt, mais j'ai du mal à sentir qu'on puisse vraiment l'exploiter. Quoi.
Après, il faut savoir, alors je connais pas trop s'il y a une règle de répartition du pouvoir au dos de tel numéro. Par contre, il faut savoir que les pouvoirs sont pas en nombre égal, le nombre de cartes de chaque pouvoir est pas présent en nombre égal. Hein.
Je comprends.
Pour terminer, juste un petit mot sur le traitement graphique et sur l'édition. Moi, je trouve ça plutôt cool aussi. C'est cette esthétique assez années 50. Donc, on le retrouve sur les feuilles de score, mais on le retrouve aussi dans la règle et surtout sur les aides de jeu. Alors, ce qui est pas mal, c'est que les aides de jeu sont recto verso. Et en fait, t'as un côté qui est vraiment aide de jeu, donc qui rappelle les pouvoirs des cartes et les conditions de fin de partie. Et de l'autre côté, en fait, c'est un truc tout con, hein, mais ils ont mis des illustrations et des petits textes en mode publicité ou affiche de film des années 50. Donc voilà, t'as des
avec des détournements. C'est ça. J'ai vu passer des trucs où tu vois la maman qui est en train de jouer avec son fils et puis le papa qui est en train de préparer le repas.
C'est ça. Il joue
l'inverse des pubs qu'on pouvait voir à l'époque.
C'est ça. Et puis il joue à Meeple War, tant qu'à faire. Il joue un jeu.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ouais, par exemple, t'as une parodie de l'affiche aussi de La Mort aux Trousses avec le coquer aux trousses. Puis avec une petite affiche de film où il y a écrit produit par Alain Ballet.
Ah oui, d'accord. Voilà. Non, ouais, vu, c'est des petits clins d'œil sympas.
Des petits clins d'œil sympas.
Mais c'est vrai que je trouve en plus, pour le coup, c'est un type d'esthétisme qu'on retrouve pas fréquemment, se caler comme ça sur les années 50.
C'est vrai.
À part dans, j'ai oublié le nom du coup, un jeu de splotter là, récemment, là, Food Chain Magnate. Merci, j'y arrivais. on retrouve un peu cette esthétique là. Mais c'est le jeu, je crois, que je connaisse, c'est le jeu que je connaisse en tout cas qui utilisait aussi ce graphisme années 50, quoi, on va dire.
Faut noter aussi qu'il y a une application de fiche de score, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez pas utiliser vos feuilles de bloc-notes ou si vous voulez
si vous n'avez pas de plastifieuse,
si vous voulez pas prendre toute la boîte avec, vous prenez juste le paquet de cartes. Vous pouvez jouer avec une application qui est juste une application en fait de bloc-notes de score. dans laquelle vous allez pouvoir rentrer les bonus que vous utilisez, les numéros que vous mettez sur quelle maison, telle maison, etc. C'est plutôt bien foutu, et puis ça permet...
Ouais, t'as déjà joué avec, quoi.
Ouais, j'ai déjà joué avec. Alors, pour que ça soit ergonomique, il faut quand même un assez grand téléphone, voire une tablette dans l'idéal.
Une tablette, parce que,
En fait, la boîte est carrée, donc les feuilles de score, c'est des feuilles qui font... Je vais dire une connerie, mais 15 cm sur 15 cm à peu près, à vue de nez, peut-être un peu plus, 15-20 cm sur 15-20 cm, ramené sur un petit téléphone.
Donc tablette plutôt.
Ouais, et puis petite chose aussi sur la boîte, donc quand on enlève le couvercle, sur le bord de la boîte intérieure, ça on le retrouve dans certains autres jeux, mais on a photo plus bio de l'auteur et de l'illustratrice. Et on a aussi un petit truc sympa avec quelques exemples de ce que les 50s nous ont apporté. Et donc avec une liste d'inventions, de découvertes, de choses qui se sont passées dans les années 50. Bon, par exemple, la découverte de l'ADN, le vaccin contre la polio, la pilule contraceptive, la bombache. Voilà, il y a toute une liste en fait de choses que nous ont apporté les années 50. Donc tu vois, c'est...
Enseignons des choses à ces joueurs incultes.
Bah ouais, non, mais j'ai trouvé voilà, ça remplit sur les autres côtés en fait. T'as la bio de l'auteur, la bio de l'illustratrice. Sur le dernier, t'as un petit une petite pub pour Blue Cocker, enfin le logo de l'éditeur avec un petit QR code qui doit, je l'ai pas flashé, mais qui doit mener au site de l'éditeur. Enfin voilà, c'était une utilisation de la boîte que j'ai trouvé sympa.
C'est optimisé, quoi.
Ouais, c'est optimisé, et puis ça fait un petit instant culture G quand on ouvre sa boîte, c'est plutôt agréable.
Ouais. Bon, moi je voulais juste ajouter un truc sur l'aspect thématique. Je me rappelle que pendant le débrief, on avait abordé un peu ce point-là.
Oui, Alain demandait si c'était convaincant, enfin ouais. si ça marchait bien, quoi.
Et en fait, c'est vrai que plus on avançait, on disait ah oui, bah il y a ce truc-là, comme il y a ce truc-là, bien, il y a ça, il y a ça. En fait, on se rend compte que ça match quand même vraiment bien.
Ouais, l'intégration. Si le thème, ouais. Si c'était pas le thème d'origine, ou si le thème a été changé, là le thème marche vraiment très bien. En plus. Voilà le coût des travaux qui modifie le numéro, qui dit que bah voilà, celui qui en fait le plus, c'est parce qu'il y a plus d'embauches dans la ville, donc ça fait un bonus à la fin. Enfin, tout est bien pensé. Ouais, quoi.
C'est ça, il y a les petites explications, ça facilite l'explication du jeu. Et puis effectivement, ça participe aussi un peu à l'immersion du truc, quoi. C'est-à-dire, on construit vraiment sa ville. Voilà, quand on encadre le lotissement, on comprend bien qu'on réalise une partie du cadastre, etc. Ça marche bien.
Ouais.
Et je voulais juste du coup faire le parallèle avec un peu hasard du calendrier, mais effectivement, des cryptos aussi, on disait qu'il y avait un effort thématique, et là aussi on a à côté Welcome, où je trouve qu'il y a un effort sur la thématique aussi, dans des jeux dans lesquels c'est pas toujours le cas, quoi. Et là effectivement on peut se rapprocher pour Welcome de Encore, ou de Quinto, ou de, enfin bon, j'en oublierai plein.
De jeux où il n'y a pas du tout de thème, quoi.
Il n'y a pas de thématique.
Effectivement. La thématique dans le Roll and Write, c'est aussi quelque chose qui arrive, je pense, de plus en plus, mais
ouais.
Qui est...
ça dépend en fait, hein. Il y en a qui le font, la route des vignes, je citais tout à l'heure, ou Steamrollers, voilà, où il y a vraiment un thème dessus, mais c'est pas toujours le cas, quoi.
Ouais. Non, c'est vraiment le thème, enfin l'application du thème au jeu est vraiment bien réussie. Et puis même dans l'édition, quoi, les petits détails, comme je disais, les petites fausses pubs, tous ces petits détails qui font très années 50, qui mettent bien dans l'ambiance des années 50.
À ton sens, c'est quoi le public visé sur ce genre de jeu ?
Ils mettent à partir de 10 ans sur la boîte. Voilà, je pense que c'est ce qu'on appellerait du familial plus. C'est-à-dire que en fait, les règles sont relativement simples. Donc c'est assez vite expliqué, c'est assez vite compris. Après, voilà, pour l'optimisation, elle est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est quelque chose que c'est un jeu auquel tu peux jouer avec des enfants à partir de 10-12 ans sans problème, je pense. Et je pense que c'est la cible est relativement familiale en fait. Je pense que voilà, tu joues facilement avec des enfants, et en même temps, moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer, et puis j'y joue avec des collègues, avec des amis. C'est pas non plus et puis ça se joue rapidement. C'est un peu comme des cryptos en termes de durée, c'est 25-30 minutes. Ça fait un très bon filler, quoi.
Ok, je te laisse refaire la fiche signalétique.
Donc Welcome, alors le titre entier ce serait Welcome to your perfect home.
Ouais, je sais pas du coup d'ailleurs si le titre c'est vraiment Welcome ou Welcome to ou Welcome to your perfect home en fait. Au final, ouais. Ça c'est pas forcément un super bon plan au niveau référencement.
Je trouve. Ouais, bah, bon. Tout le monde l'appelle Welcome.
Oui, oui, effectivement, bon, globalement c'est... on dit Welcome. Mais...
En fait, l'histoire, c'est que sur les petites fiches, vous pouvez mettre le nom de la ville que vous voulez. Et donc, vous avez un welcome to, et puis un petit champ libre pour nommer votre ville.
BenoFXville.
C'est ça. Donc, Welcome to, un jeu de Benoît Turpin, illustré par Anne Heitzieck, édité par le Blue Cocker, pour 1 à 100 joueurs, voire plus si vous achetez plusieurs bloc-notes, à partir de 10 ans pour des parties de 25-30 minutes environ. Voilà, voilà pour cette émission Jeu du mois. Et je l'ai pas dit, mais aussi 19,50€ chez Philibert, donc pareil, un jeu au prix relativement contenu.
Mmh. Donc vous savez quoi acheter ce mois-ci du coup maintenant.
C'est ça.
Très bien. Bon bah du coup on va se retrouver le mois prochain, hein.
C'est ça.
Pour deux nouveaux jeux à acheter. Ou pas, on va voir hein, du coup si tu joues à Rising Sun et que parce qu'on peut spoiler déjà ta première impression, elle est pas tip top si j'ai bien
non,
compris.
Non, c'est
mais c'est une première partie. Non,
c'est faut voir. Première partie, voilà, un peu mitigée, on va dire. Ouais, mais, ce sera on en reparlera.
C'est ça, on en reparlera. Et donc bien au mois prochain et puis donc d'ici là,
jouez bien.
Qui a sorti Bonas, et en fait, bah, il était à peu près le seul à la table à connaître le mot. C'est un type de vent. C'est un type de vent.
Ah bon?
Voilà. Un truc de navigation, du coup.
Je le connaissais pas sous ce sens-là.
Et bah voilà. Moi non plus.